Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Dernières paroles de ce chant sont une excellente transition avec ce que j'aimerais vous partager ce matin. Il y a 15 jours, on a ouvert une série sur la lettre aux Philippiens, écrite par Paul. Et pour essayer de résumer le plus concisément ce qu'on a vu, on voit que Paul, dans ce début de sa lettre, exprime sa joie, exprime sa reconnaissance pour les Philippiens à cause de leur partenariat pour l'Évangile. Ils sont venus en aide à Paul, notamment par un soutien financier, soutien matériel. Et Paul est reconnaissant pour ses partenaires qui ont à cœur l'Évangile, de le soutenir dans ce ministère. Et il prie pour eux, et il prie pour que leur amour grandisse, pour qu'ils puissent discerner, faire des choix dans leur vie qui sont les meilleurs. Ce matin, on poursuit donc cette lettre et on va voir les chapitres, toujours le chapitre 1, les versets 12 à 26. Et on va voir combien Paul se réjouit pour l'Évangile qui progresse. Je propose donc la lecture de ce texte, Philippiens chapitre 1, les versets 12 à 26. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous, chez vous, pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Vous avez devant vous l'image d'un verre d'eau. Alors, je suis sûr que parmi vous, si je demandais ce matin qu'est-ce que vous voyez, je pourrais tous vous classer quasiment en deux, peut-être plus, mais je pense essentiellement à deux catégories, si on part tous sur le fait qu'on voit un verre d'eau. Peut-être que certains parmi vous me diraient de manière plus précise, je vois un verre à moitié vide. Peut-être que d'autres diraient, je vois un verre à moitié plein. Alors je ne veux absolument pas mettre en avant l'idée ce matin que certains peuvent être défaitistes et les autres optimistes. Ce n'est pas du tout le but de cette image. Mais l'idée ici, c'est de se dire qu'en regardant tous une même situation, on peut avoir un regard différent sur la situation. Et je crois que c'est ce que Paul veut faire ce matin au travers de ce passage, de ce texte, de cette lettre qu'il écrit à ces chrétiens de Philippe. Il veut leur amener un autre regard sur sa situation, sur ce qu'il vit. Et il va mentionner donc trois situations qu'on pourrait voir, et quand on y pense, à aborder d'une certaine manière. Mais Paul veut apporter un autre regard sur ces situations. Il veut que nous regardions à ce qui est le plus important. Mon premier point, il y en aura deux ce matin. Le plus important, c'est que Christ soit annoncé. Et il va parler donc de cette première situation. Rappelez-vous, Paul est en prison. Et Paul était bien connu des Philippiens. C'était lui donc qui était à l'origine de cette église, qui avait œuvré à Philippe, qui avait partagé l'évangile. Des personnes s'étaient tournées vers Christ et il avait implanté cette église. Ces Philippiens suivaient l'apôtre Paul dans son ministère d'évangéliste, d'implanteur d'église. Il parcourait et parlait et partageait la bonne nouvelle de Christ. Et apprenant que Paul, lui, était en prison, peut-être qu'il devait se dire, qu'est-ce qui se passe pour Paul? Comment est-ce que Paul vit cet emprisonnement? Est-ce que c'est difficile? Et qu'en est-il, en fait, de son ministère? Lui qui a tellement à cœur le progrès de l'Évangile. Est-ce que la prison constitue un obstacle à l'avance de l'Évangile? Et puis, peut-être qu'ils sont anxieux à l'idée d'un procès et de l'issue de ce procès. Paul va donner peu d'informations sur les conditions de sa détention. Il va en parler. Il va mentionner que c'est difficile, très clairement, qu'il y a des souffrances. Mais ce qu'il met en avant, cet autre regard qu'il veut mettre sur le devant, et il le dit, verset 12, « Je tiens à ce que vous sachiez, si vous pensez toutes ces choses qu'on a évoquées, moi je tiens à ce que vous sachiez, c'est que malgré mon emprisonnement, malgré la prison, l'Évangile progresse. Je suis en prison, oui. Oui, je suis en prison. Mais ce qui est important, c'est que Christ continue d'être annoncé. Si Paul est en prison, l'Évangile ne l'est pas. L'Évangile continue d'être diffusé. Et il continue d'être diffusé dans deux directions. Il est tout d'abord diffusé en prison, là où se trouve Paul. Paul était enchaîné sous la surveillance permanente d'un soldat romain tout au long de la journée. Et comme on connaît Paul, son désir ardent de parler de Christ, je me dis que le soldat romain qui était passé la journée avec lui devait entendre toute la journée Paul lui parler de ce qui l'animait au fond de lui, Jésus-Christ. « Hey, tu sais que Jésus-Christ, c'est ma vie. Tu sais que je suis en prison simplement parce que je parle de qui est Jésus. » Et puis, quand cette personne partait pour un changement de relais, il devait dire à celui qui va le remplacer, hein, « Tu sais, Paul aura certainement beaucoup de choses à te dire. » Et tu n'auras pas beaucoup d'autres solutions que de devoir écouter ce qu'il a à te dire. Et c'est comme ça que, petit à petit, aussi très certainement par le bouche à oreille, tout l'évangile, enfin, l'évangile se propage dans tout le prétoire. Le prétoire, c'était toute la garde qui était en place pour la protection de l'empereur romain. Tout le monde... c'est que Paul est là à cause de sa foi. Et par ce temps en prison que Paul passe, ces personnes qu'il côtoie dans sa cellule, eh bien, il peut toucher une partie de la haute société romaine qui entend par son biais parler de Jésus-Christ. L'évangile progresse en prison, c'était les versets 12-13. L'évangile progresse aussi à l'extérieur de la prison, verset 14. Paul dit que ce qu'il vit contribue à encourager d'autres chrétiens qui se trouvent certainement dans la même ville que l'apôtre Paul. Ils sont encouragés par ce que Paul vit à faire confiance à Dieu. Ce que Paul vit les rebooste et leur redonne une immense assurance pour annoncer à leur tour Jésus-Christ. Je pense que pour la plupart d'entre vous ici, vous connaissiez l'association Portes Ouvertes. On a Chantal dans notre église qui est une représentante. Un relais de porte ouverte. On a régulièrement l'occasion de prier pour l'Église persécutée. Et je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'entends ces témoignages de ces frères et sœurs qui sont dans ces pays où ils sont persécutés pour leur foi, où ils se retrouvent en prison, et parfois jusqu'à perdre leur vie, parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils veulent le servir, parce qu'ils veulent partager cette bonne nouvelle de l'Évangile, combien je ressors de ces moments encouragé de voir comment Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses frères et sœurs, comment leur témoignage met en avant que Dieu est là et qu'il les soutient dans leurs difficultés. Deuxième situation, parmi ces personnes qui ont un zèle en entendant que ce qui se passe pour Paul et qui ont un zèle nouveau pour partager l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, Paul dit que dans ce groupe de personnes, il y en a quelques-uns qui annoncent Christ par jalousie et par rivalité. Alors on n'a pas de détails, Paul ne développe pas qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que ce sont des gens qui profitent que Paul est en prison pour pouvoir prendre un petit peu plus le devant de la scène, pour s'attirer un petit peu plus de reconnaissance dans leur ministère? Est-ce qu'ils ont envie de profiter de cette situation pour tirer vers eux la couverture. En tout cas, Paul ressent cela comme une mauvaise motivation. Leur motivation est d'ajouter des souffrances à Paul. Et Paul est affecté par cela. Ces personnes ajoutent des souffrances à ce que je vis déjà. Mais encore une fois, qu'est-ce que Paul affirme ? Qu'importe, après tout. Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je ne sais pas comment vous prenez ce que dit Paul là. Est-ce que pour Paul, tout d'un coup, la motivation dans le service passerait en arrière-plan, alors qu'à d'autres occasions, dans d'autres lettres qu'il écrit à d'autres églises, et qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, Paul met en avant l'importance d'un service pour Dieu, pour de bonnes motivations. Et il nous met en garde contre un service qui serait motivé peut-être par l'orgueil, par un service qui serait peut-être motivé par le gain de l'argent, l'appât du gain, une certaine notoriété. Est-ce que soudainement, Paul serait en train de dire que on pourrait laisser une personne servir Dieu au travers de la louange, sachant que cette personne n'a pas de bonne motivation, mais bon, il chante le Seigneur. Est-ce qu'on pourrait soudainement laisser venir quelqu'un partager la parole de Dieu avec de motivation, quand on en a conscience, bien sûr, et se dire « Oh, pas grave, il partage la parole de Dieu, c'est ce qui est essentiel. » Non, non, je ne crois pas que Paul change son fusil d'épaule. Paul dit cela parce qu'il est en prison. Paul dit cela parce qu'il ne peut certainement pas faire grand-chose dans cette situation. Alors, il préfère porter son regard ici, dans ce cas, porter son regard sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Christ est annoncé. Le contenu du message est bon. Et il sait que Dieu peut même utiliser une prédication donnée avec de mauvaises motivations. Et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement parce que nous ne sommes pas parfaits. Je ne le suis pas. Et je suis constamment encouragé et repris par le Seigneur à examiner la motivation de mon service. Pourquoi est-ce que je fais de la musique pour Dieu ? Est-ce qu'il n'y a pas des motivations qui sont plus profondes ? Pourquoi est-ce que j'aime prêcher ? Quelles sont les vraies motivations de cela ? Et on pourrait dire cela pour tous les services dans nos vies. Deuxième chose qui est le plus important pour Paul, c'est que Christ soit glorifié. Paul en est persuadé, il le dit, il sait que toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances aboutiront à son salut. Et il compte pour cela sur la prière des Philippiens et sur l'aide du Saint-Esprit dans sa vie. Paul n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais quelqu'un qui compte sur Dieu, qui sait combien la prière est importante. Et ce salut dont parle Paul, là encore, un petit peu difficile de savoir qu'est-ce que cela concerne. Est-ce que Paul est en train de dire, je sais que de manière ultime, à un moment donné, eh ben,
je vais sortir de prison? Ou est-ce qu'il dit, ben, de toute façon, de manière ultime, je vais peut-être mourir. Et puis, ben, je serai entré dans mon salut en rencontrant le Seigneur. Ce salut peut être lié à sa sortie de prison, mais aussi à sa mort. Mais qu'il soit libéré ou qu'il meure, Paul sait qu'il sera sauvé et que justice sera faite. Mais que ce soit la mort qui se profile devant lui ou la vie qui continue, le plus important pour Paul, c'est de manifester la grandeur de Christ. Que Christ soit glorifié, quelle que soit l'issue de la situation. L'essentiel, c'est la gloire de Christ. Et Paul affirme cette phrase, je pense que beaucoup ici connaissent. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. On sent Paul tiraillé entre, dans un choix à faire entre le meilleur et le plus important. La mort serait ce qu'il y a de meilleur pour lui, parce qu'elle signifie rejoindre Jésus-Christ. Mais, de toute façon, Paul sait que ce n'est pas lui qui choisit le moment de sa mort. Et il sait que s'il reste, s'il vit, s'il sort de cette prison, il va aussi pouvoir continuer de servir Christ et servir ses frères et sœurs, les aider à progresser dans la foi, leur amener de la joie en revenant auprès d'eux. La mort m'est un gain, et ce serait de loin le meilleur. Mais si je dois vivre, c'est le plus important. C'est que Christ soit glorifié, que je puisse continuer de vous enseigner, de vous aider à grandir. Est-ce que Paul est un super héros? Oui, Paul, quand on découvre toujours plus qui il est, on peut se dire, oui, Paul semblait, en tout cas, était un homme de Dieu. Et puis peut-être, et vous vous dites du coup en pensant cela, mais c'était Paul quand même. C'était pas n'importe qui. Je ne crois pas que la motivation de Paul, en parlant de cela, était qu'on pense de lui qu'il était un chrétien formidable. Paul est transparent sur ce qu'il vit. Paul traverse une épreuve, il parle de ses souffrances. Il mentionne la difficulté de cela. Il dit combien c'est pénible. Mais Paul veut encourager les chrétiens de Philippe et veut nous encourager. Nous encourager à considérer ce qui est le plus important. Rappelez-vous, Paul veut apporter un autre regard. Il est possible de considérer des choses difficiles de nos vies sous un autre regard. Ce qui est le plus important, c'est le progrès de l'Évangile et que Christ soit glorifié. Est-ce que le progrès de l'Évangile est aussi au cœur de nos priorités? Parce que Christ était sa vie, Paul avait fait des priorités de Christ ses priorités. Quand on lit dans les évangiles la mission de Jésus-Christ, quel était le message qu'il annonçait, son enseignement, il est mentionné à plusieurs reprises que Jésus annonçait la bonne nouvelle, qu'il allait appeler les gens à la repentance et à la foi. Quand Jésus allait quitter cette terre pour retourner auprès de son Père, il donne cette mission à ses disciples d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Paul ne se réjouit que d'une chose, le progrès de l'Évangile. Si comme Paul, nous sommes aussi ce matin disciples de Jésus-Christ, est-ce que le progrès de l'Évangile est à la première place de tout ce à quoi nous aspirons, de tout ce que nous désirons au plus profond de nos cœurs? Et j'aimerais nous poser cette question pour nos vies. Que désirons-nous pour ces semaines, pour ces mois, pour ces années, si Dieu nous prête des années encore devant nous? À quoi aspirons-nous? Est-ce que c'est de progresser dans un sport? Est-ce que c'est de fonder une famille? Est-ce que c'est de gravir des échelons dans mon travail? Est-ce que c'est de voyager à travers le monde? Est-ce que c'est d'avoir une maison, de devenir peut-être propriétaire? Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est d'avoir un beau potager? Je parle aussi de désir court, hein. Est-ce que c'est profiter de la retraite pour développer certaines relations, pour passer du temps avec ses amis, plus de temps avec ses amis? Laissez-moi être sincère et honnête avec vous. Chacune de ces motivations, chacun de ces désirs, chacune de ces aspirations sont bonnes. Mais ma question au travers de cela, elle est de se dire, de nous amener à réfléchir, de se dire, est-ce que on a mis tellement parfois l'emphase sur ces aspirations dans nos vies, sur le désir d'atteindre ces objectifs, que petit à petit, dans nos vies, nous perdons de vue ce qui est essentiel, ce qui est le plus important pour Christ, que l'Évangile progresse. Peut-être que ce matin, vous sentez un écart entre ce zèle de Paul et votre zèle aujourd'hui pour cet objectif-là. Je sens cet écart dans ma vie. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout le temps cette fougue que Paul avait? Pourquoi des fois, dans les circonstances difficiles, d'un coup, je baisse les regards sur ce qui se passe et puis j'ai la tête complètement ailleurs. Et je crois que, en tout cas c'est une réponse, il y en a peut-être d'autres, mais je crois que je suis parfois encore trop attaché à ma réputation, à mon image, à la crainte d'être rejeté, la crainte de l'opposition que je vais rencontrer, des moqueries, de l'indifférence. Oui, on va rencontrer tout cela, c'est certain, en parlant de Christ. On va rencontrer toutes ces choses-là dans nos vies. Et il n'y a rien de surprenant à cela, parce que Christ l'a vécu, et Jésus nous a avertis qu'on le vivrait. Paul l'a vécu et l'a expérimenté. Et c'est là que nous devons revenir à l'Évangile. C'est là que nous devons nous rappeler de l'importance de notre identité en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, pleinement acceptés, pleinement aimés par lui. Notre valeur est en Jésus-Christ. Notre sécurité est en Jésus-Christ. Deuxième application pour nous ce matin, voyons-nous dans nos épreuves des opportunités de parler de Jésus-Christ? On sait que Dieu n'est jamais l'auteur du mal, jamais l'auteur de la souffrance, jamais l'auteur des injustices auxquelles nous sommes confrontés. Mais dans sa souveraineté, il se sert parfois de ces situations difficiles pour en sortir quelque chose de bon. Rappelez-vous aussi l'épisode de Joseph, vendu par ses frères, comme un esclave, et qui petit à petit va être amené à se retrouver prince d'Égypte pour le salut du peuple de Dieu. Ce que vous aviez concocté, dit-il à ses frères, de mal contre moi, Dieu en a sorti du bien. L'emprisonnement de Paul a permis deux choses. De toucher toute une catégorie de personnes, le prétoire, qui n'aurait peut-être jamais entendu parler de Christ si Paul n'avait pas été en prison. Deuxième chose, son emprisonnement a permis d'encourager, de motiver d'autres chrétiens à annoncer Christ à leur tour. Quelles sont les situations difficiles, pénibles, injustes, causes de souffrance que nous traversons peut-être en ce moment, que vous traversez peut-être en ce moment? Et si Dieu désirait utiliser cette situation pour le progrès de son évangile? Au travers de ces choses difficiles que vous vivez, qui êtes-vous amené à côtoyer? Quelles sont les personnes que vous rencontrez parce que c'est propre à cette situation et à ce contexte actuel et que peut-être vous ne rencontrerez plus jamais dans le courant de votre vie? Il y a quelque temps de cela, on a été encouragé par une famille que l'on connaît, qui a été très éprouvée dans la santé, à cause de la santé d'un de leurs enfants. C'était très, très gravement malade. Et on a reçu, bien sûr, régulièrement des nouvelles de cette famille qui nous tenait au courant, qui partageait la douleur de voir leur enfant atteint par ces difficultés, par cette souffrance, combien eux, en tant que parents, ils souffraient de voir leur enfant souffrir. Ils ont évoqué la perspective aussi de la mort et de la possibilité que leur enfant soit repris par le Seigneur. Ils mentionnaient tout ça. Mais vous savez, ce qui ressortait à côté de tous ces messages que l'on recevait, qui partageaient ces souffrances, on recevait quasi, j'ai envie de dire, en proportion presque équivalente des messages qui nous disaient « Est-ce que vous pouvez prier pour telle dame que nous avons rencontrée dans la salle d'attente et avec qui nous avons eu l'occasion de partager notre foi, combien on fait confiance à Dieu, qui a été interpellé, à qui on a pu donner une Bible. Est-ce que vous pouvez prier pour cette personne? Est-ce que vous pouvez prier pour ce médecin qu'on a rencontré et à qui on a aussi eu l'occasion de partager l'évangile? Il est interpellé par ce qu'on vit. Il a même peut-être envie de rejoindre une église pour découvrir ce message qu'on leur a partagé. Priez pour cet homme, priez pour cette personne. Quand on recevait ces messages, personnellement, combien cela m'a recentré sur ce qui est le plus important pour Dieu, que des gens entendent la bonne nouvelle. Et deuxièmement, combien cela m'a reboosté dans mon désir de partager à nouveau l'évangile, de parler de Jésus autour de moi. Enfin, dernière application pour nous, est-ce que nos choix sont orientés en fonction des intérêts de Christ et ceux des autres avant nous? Quand Jésus est venu sur la terre, sa vie était animée par le désir d'honorer son Père et de servir les hommes. Son enseignement principal qu'il a communiqué était « Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même ». Parce que Christ était sa vie, Paul désirait que sa vie ressemble à celle de Christ. Il voulait honorer Christ en toutes circonstances, par sa vie, par sa mort. et aider les chrétiens à progresser dans la foi, apporter de la joie à ces chrétiens. C'est Christ en premier et les autres avant lui. Il y avait un renoncement à soi-même chez Paul. De nouveau, quand je considère ma vie, quand je considère nos vies et le monde aussi qui nous entoure, j'ai l'impression que nous sommes loin ici d'une vie centrée sur nous-mêmes, d'une quête et d'une poursuite d'un certain confort, d'un certain plaisir, d'un certain bien-être personnel. Pourquoi, encore une fois, pourquoi Paul pouvait-il faire passer les intérêts de Christ et ceux des autres avant lui? Ça m'a fait aussi réfléchir à cette question. Et je crois peut-être qu'un élément de réponse était parce que Paul pouvait dire, était capable de dire, « La mort m'est un gain ». Il le disait, mais je sais que Paul le pensait du plus profond de son cœur. La mort m'est un gain. Je crois que nos actes, ce que l'on fait, manifestent bien souvent ce que nous croyons. Je mange parce que mon ventre gargouille et je sens cette faim qui me tiraille et je sais... Je crois au plus profond de moi que c'est important que je mange, parce que si je ne mange pas, je vais mourir. Donc je me mets à table et je mange, parce que je crois que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Je vais faire les courses, parce que je sais que j'ai besoin de manger. Je m'assieds sur cette chaise, parce que je crois qu'elle est capable de soutenir mon poids. Si nous croyons que cette vie terrestre, cette vie sur cette terre, et tout ce que nous connaîtrons, alors cela fait sens de dire, allons, profitons de chaque instant, parce qu'un jour, ce sera fini. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Si comme Paul, nous savons que la mort n'est qu'un passage vers ce qu'il y a de meilleur, vers une vie exaltante et éternelle avec le Christ, alors nous pouvons vivre, nous avons cette liberté de vivre pour servir Christ et servir nos frères et sœurs, servir nos prochains avant nous-mêmes, même si cela nous coûte. Quels sont les choix que vous avez à faire chaque jour? Si on parle du travail, si vous faites ce choix de donner le meilleur de vous-même pour votre patron et son entreprise, en le faisant pour Dieu, cela va très certainement vous coûter. Mais quand vous le faites, vous êtes un salarié qui honore Jésus-Christ et qui fait passer l'intérêt de votre patron, de vos collègues de boulot, avant les autres. Si vous êtes patron, donnez le meilleur de vous-même pour vos salariés en le faisant pour Dieu, va très certainement vous coûter. Mais quand vous le faites, vous êtes un patron qui honore Jésus-Christ. Si vous donnez le meilleur de vous-même pour vos voisins, en le faisant pour Dieu, ça va très certainement vous coûter. Mais quand vous le faites, vous êtes des voisins qui honorent Jésus-Christ. Si vous visez à donner le meilleur de vous-même pour votre femme ou votre mari, en le faisant pour Dieu, cela va vous coûter. mais quand vous le ferez, vous serez un mari et une épouse qui honore Jésus-Christ. Quand vous donnerez le meilleur de vous-même pour vos amis, cela va vous coûter. Mais vous serez des amis qui honorent Jésus-Christ. Quand vous donnerez le meilleur de vous-même pour vos frères et sœurs dans l'Église, en les servant, en les aimant, en le faisant pour Dieu et pour eux, cela va vous coûter. Mais quand vous le faites, vous serez des frères et des sœurs qui honorent Jésus-Christ. Cette citation qui dit « Christ peut être glorifié dans mon corps » et je cite « glorifié par des lèvres qui lui rendent un joyeux témoignage, glorifié par des mains qui le servent dans un joyeux service, glorifié par des pieds heureux de suivre ses traces, glorifié par des genoux joyeusement fléchis en prière pour son royaume et glorifié par des épaules désireuses de porter les fardeaux des autres. » Alors prions que le Seigneur renouvelle nos regards sur nos vies et nous aide par son esprit et par la prière les uns pour les autres à faire du progrès de l'Évangile notre priorité. Qui nous aide également à vivre nos vies, de saisir que là où Dieu nous a placés dans nos contextes de vie qui sont uniques, personne n'est mieux placé là où vous êtes dans votre voisinage. Je ne rencontrerai peut-être jamais vos voisins, peut-être que si, peut-être que non. Mais vous êtes dans un travail particulier, dans une branche particulière. Vous êtes en relation avec un groupe d'amis qui ne sont pas forcément des personnes que je connais. Mais Dieu vous a placé là dans un contexte pour que vous puissiez aussi l'honorer. Et voilà, aimer Dieu et aimer les autres avant soi-même. Qui nous aide donc également à l'honorer en toutes choses dans nos vies et à penser aux autres avant nous-mêmes. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, combien elle nous fait du bien, combien tu l'utilises, en tout cas ce passage ce matin, pour apporter un autre regard sur nos vies, parfois prendre un petit peu de recul et de dire que, voilà, au travers de tout ce que l'on vit, Seigneur, eh bien, tu as des projets. Tu as des projets pour nous, oui, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a de la souffrance, Seigneur, et ce n'est pas facile. Mais on ne veut pas perdre de vue, Seigneur, tes projets pour le monde, tes projets qui sont tes projets pour chacun de nous, qui sont pour chacun de tes enfants. Seigneur, on veut aussi se rappeler ce matin notre identité en Christ. Combien si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, combien nous sommes en paix avec toi, combien nous sommes en sécurité, qu'on n'a rien à craindre de ce qui adviendra demain et que, comme le dit Paul, effectivement, si la mort vient à frapper, eh bien cette mort n'est qu'un passage vers quelque chose de plus extraordinaire, de plus glorieux, de plus merveilleux que la plus merveilleuse des choses qu'on pourrait vivre sur cette terre, Seigneur. On a tellement de mal à s'imaginer cela, parce qu'on a tendance à croire ce que l'on voit. Et Seigneur, voilà, que tu augmentes notre foi, que tu renouvelles notre regard, et qu'on puisse être motivé dans notre service pour toi, dans notre service pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour notre prochain, Seigneur. Motivé par ta gloire, par le fait de faire tout cela, Seigneur, pour toi, pour que toi tu sois honoré, pour que toi tu sois glorifié, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Amen.